Quelques gouttes mêlées de flocons ce week-end sur Paris, mais la capitale n'a pas connu d'épisode neigeux d'envergure. Pas de grande robe blanche, pas de poudreuse, pas de bonhomme de neige, donc pas de rêverie, pas de silence, pas de ce temps tout blanc hors temps.
Pascal Paradou.
Pour rêver à la neige, il faut lire Luis Seabra, écrivain et musicien qui essaye de comprendre la fascination des hommes et son propre émerveillement pour la neige, dans un livre à la fois savant et sensible, Éloge de la neige. Bonjour Luis Seabra.
Bonjour.
Livre étonnant, et vous le soulignez vous-même, car né à Lisbonne, au Portugal, vous n'avez jamais connu la neige dans votre enfance.
Non, il se trouve que je n'ai pas connu la neige, mais qu'elle m'a toujours fasciné. Je l'ai connue à travers les encyclopédies parce que j'étais très curieux. Pour ce phénomène, en fait, j'ai toujours aimé beaucoup la géographie, mais j'avais aussi un amour pour les déserts. Donc, il se trouve que je suis donc né dans une ville, Lisbonne, où il ne neige jamais. Il a neigé une fois dans le siècle, et là, ma mère m'a dit qu'on avait fermé les écoles parce que c'est un phénomène tout à fait terrifiant. Ça m'a donné une idée de quelque chose de rare et à la fois de dangereux, mais aussi de précieux.
Donc c'est un objet de rêverie pour vous, la neige, vous n'en avez pas eu d'expérience physique enfant?
Non, je n'en ai eu qu'à 18 ans. Alors j'ai eu une expérience par ouï-dire, quand Spinoza parle de la connaissance par ouï-dire, c'est-à-dire par des récits d'autres personnes en fait, et notamment dans ma famille, puisque ma mère en fait a connu la neige à Moscou lors de son exil politique, parce que c'était une opposante à Salazar. Elle le connaissait un peu avant, parce que mon grand-père vivait dans un village des Hauts-Plateaux. Et là, c'est quelque chose d'un peu étonnant, parce qu'on ne connaît pas le Portugal sous cet angle-là. Mais à l'intérieur du pays, dans les Hauts-Plateaux et dans les montagnes, il y a effectivement des villages où il neige tout le temps. Donc j'ai eu des récits de neige de famille.
Et dans ces oui-dire, il y a aussi la littérature, puisque dans votre livre, vous citez Miguel Torga, par exemple, qui est un écrivain portugais du XXe siècle. « La vie est ce que je vois, dit-il, écrit-il plutôt, une matinée majestueuse et nue sur ces monts couverts de neige et de soleil. » Et à partir de cette phrase-là et de quelques oui-dire, comme vous dites, est née une obsession. Comment se dit le mot « neige » en portugais ?
Neve.
Et ça évoque quoi pour vous, ce mot en portugais?
Moi, dans mon cas, si vous voulez, c'est plutôt l'aspect littéraire et de la chose, l'aspect spirituel qui m'a longtemps attiré. Rapport à la rareté, à l'éphémère, au fait qu'en plus, ça peut arriver une fois dans votre vie, mais ça nous marque quand même. Même s'il neige qu'une fois dans votre vie, je crois que Pamuk dit ça dans un livre dont je parle, Ram Pamuk, le grand livre de neige, dit qu'il suffit qu'il rêve une fois dans votre vie pour que vous soyez totalement transformé.
Alors la neige, physiquement, vous la découvrez, vous le dites dans ce livre, Luis Seabra, à Paris en 1991, quand vous arrivez en France. Et c'est vrai que vous lui prêtez quantité de qualité. Vous dites d'abord qu'elle a quelque chose de maternel, la neige.
Oui, alors ça c'est très étonnant, mais effectivement c'est en rapport, alors je ne vais pas faire de psychanalyse, mais il se trouve que ma mère était quelqu'un de à la fois très doux et un peu glacial, en fait, parce que derrière cette douceur, il y avait quelque chose une sorte d'impassibilité. Donc je ne vais pas faire de psychanalyse, parce que c'est avant tout un essai. Mais le côté maternel est lié au lait, si vous voulez. Mais c'est un lait glacial, donc c'est un lait intellectuel, un lait spirituel, si vous voulez. Ce n'est pas le lait d'ici-bas, c'est le lait d'ailleurs, d'en haut, du ciel, des étoiles.
Donc, quelque chose de maternel avec un goût particulier.
Oui.
Parce que vous la mangez, vous la goûtez, la neige.
Oui, tout à fait.
Mais elle a quel goût?
Le goût de l'impermanence, le goût de l'éternité, le goût de ce qui... de ce qui un goût spirituel, un goût purement qui vient d'en haut mais qui nous touche quand même, qui fond quand même, parce qu'elle fond, elle a pas de goût, mais c'est le goût de l'eau en fait, dans sa pureté minérale et en même temps dans son essence cristalline. Mais j'avais envie de la goûter, parce qu'on ne parle jamais du goût de la neige, on parle de l'odeur, parce qu'il paraît qu'on en a une. Le goût, la neige, elle a le goût de l'éternité, de l'éphémère à la fois.
Et elle est un symbole de la résistance au monde moderne.
Tout à fait.
Donc, encore une qualité.
Oui. Alors, je vais vous dire pourquoi, à mon sens, elle a une résistance. Tout d'abord, parce qu'elle est délicate, dans un monde où tout est plongé dans une forme de vulgarité, on le voit aujourd'hui avec les événements mondiaux. Elle est tout à fait particulière, parce que elle semble venir d'un autre lieu pour nous visiter. Alors que nous, en fait, nous sommes dans le monde moderne, c'est le contraire. On va vers l'autre pour le conquérir, pour le dominer. La neige ne vient pas nous dominer, elle vient nous visiter. Et donc c'est un éloge de la visite aussi, en fait. Voilà, pour moi, c'est un peu ça.
Et puis, on va rajouter encore une dimension à la neige, puisque vous lui trouvez vraiment beaucoup, beaucoup de qualités. Mmh. Elle est érotique. De la peau blanche entre le rouge frénétique de la pulsation sexuelle et le bleu splinétique du sentiment amoureux. Donc, la peau blanche, la neige, c'est l'érotisme pour vous.
Oui. D'ailleurs, dans un chapitre sur Kawabata, je parle justement dans ce livre, Pays de neige, que, en fait, le narrateur Shimamura a une attraction pour une geisha, mais pas sexuelle, onirique. C'est-à-dire que ce que j'aime dans cette idée-là, c'est que c'est ni l'idéalisation abstraite du bleu, ni la pulsion sauvage du rouge. C'est le blanc de la neige. C'est un érotisme particulier qui a rapport avec la peau, mais qui a rapport avec le masque, avec la poudre, avec quelque chose qui est de l'ordre de l'artifice. Mais qui est un artifice, un artefact, je dirais plutôt, qui met en valeur le corps. Donc le corps et l'esprit sont réconciliés à travers le blanc de la neige. Voilà, c'est ni une pulsion du corps, ni juste quelque chose de romantique.
Et il y a toujours de la douceur. Alors, Louis Seabra, à vous qui aimez la neige, je suis désolé, mais je vais vous imposer un choc thermique, un chaud-froid avec notre rendez-vous hebdomadaire ailleurs. Ailleurs, à Abidjan, avec Yeo Adam. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'initiative d'une exposition consacrée à l'écriture BT, qui est une écriture inventée par Frédéric Bruly-Boisbré, qui est un dessinateur et poète ivoirien disparu voilà 20 ans. Que dire de cette écriture ?
Frédéric Bruly-Boisbré a créé son écriture en 1956. Alors, c'est un système de signes syllabiques. L'écriture BT a joué un rôle essentiel dans la préservation et la transmission de la culture BT. Lorsque Frédéric Bruly-Boisbré crée son écriture, il veut préserver le savoir, la connaissance de son peuple à travers cette écriture.
Mais est-ce que cette écriture a été diffusée ?
Alors là reste l'un des problèmes majeurs que fait face cette écriture aujourd'hui. Cette écriture n'a pas suffisamment été diffusée. La preuve en est, c'est qu'il y a certains Ivoiriens qui ne savent pas que cette écriture existe aujourd'hui.
C'est vrai qu'il est plus connu dans les milieux d'art contemporain que peut-être en Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Le travail de Frédéric Bruly-Boisbré est connu. C'est la partie artistique de son travail qui a été toujours mise en exergue par rapport à son écriture. Et aujourd'hui, nous voulons, à travers cette exposition, donner vie à cette écriture-là, montrer la pertinence de cette écriture aujourd'hui à l'aide du numérique.
Mais vous vous en servez, vous, jeune artiste, de cette écriture BT inventée par Bruly-Boisbré ?
Alors oui, en tant qu'enseignant-chercheur, graphic designer, j'utilise cette écriture dans ma démarche artistique. C'est-à-dire que je l'utilise en tant que moyen, comme vecteur de création plastique. Parce que je pense que pour faire valoriser cette écriture, il faut montrer un exemple de son utilisation. Alors moi, je l'utilise dans ma pratique artistique pour montrer, pour véhiculer des messages de paix, d'amour à travers cette écriture-là. Et cela concourt à valoriser, à faire connaître davantage cette écriture.
Et grâce au numérique, parce que le titre de l'émission, c'est « Héritage et avenir à l'ère du numérique ».
Tout à fait. Aujourd'hui, nous pensons que l'avenir de l'écriture de Frédéric Bruly-Boisbré réside dans son adaptation aux technologies modernes. Cela passe par son inclusion dans le standard Unicode, ce qui permettra à cette écriture-là d'être utilisée sur des claviers d'ordinateur. Donc, nous avons créé des méthodes, des outils pour que cette écriture soit pertinente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle soit représentée sur le digital, sur le numérique. Et c'est pourquoi cette exposition met l'accent sur le numérique, pour montrer qu'aujourd'hui, l'écriture BT, si elle doit vivre, il faut passer par son adaptation aux technologies modernes.
Frédéric Bruly-Boisbré doit en être tout épaté. Merci beaucoup Yeo Adam. L'expo Écriture BT, héritage et avenir à l'ère du numérique se tient jusqu'au 22 février à l'Institut français d'Abidjan.
Tout présent sur mon épaule, sommeil de plomb, je tourne en rond, odeur laissée sur l'oreiller, d'or à l'encre.
The Atlas Mountain sur RFI avec un nouvel album Âge Fleuve et ce titre Pas lent dans la neige. Quels sont, Louis Seabra, vous évoque la neige, vous qui en faites l'éloge dans ce livre. Est-ce qu'elle a un son particulier? On parlait de son goût tout à l'heure, mais le son?
Alors, elle a une particularité physique, c'est que la neige, par ses propriétés physiques, ses particules de neige, elle absorbe le son. Donc elle étouffe le son, elle crée du silence, elle fond silence. Il y a un mot en allemand qui dit Schweigen, faire silence. En portugais aussi, en français, on a juste faire silence, donc on est auxiliaire. La neige assourdit, amortit les sons, et donc, finalement, comme ce que je déteste le plus au monde, c'est le bruit, empêche le bruit. Et de ce point de vue-là, elle permet d'avoir un rapport au monde qui est plus, disons, serein et plus silencieux, au sens où il est plus pur aussi. Parce que le silence, il est la pureté dans mon cas.
Mais est-ce que le silence est un son?
Le silence, c'est l'essence. Le silence, c'est l'essence de la musique, en fait. Je crois que Jean Calivit dit ça quelque part. La musique est une espèce de tentative d'approximation du silence, dont la neige donne l'idée la plus tactile, en fait, étrangement, et la plus expressive, parce que on n'approche jamais totalement du silence. Mais quand vous criez, par exemple, dans un paysage enneigé, on vous entend beaucoup moins. Donc, du coup, la neige, en quelque sorte, elle est l'ennemi du bruit, le cri, la violence.
Alors à ce propos, il faut raconter l'histoire de la déesse de la neige dont j'ai découvert l'existence en vous lisant. Il y a donc une déesse de la neige, ce n'est pas une invention de votre part?
Non, une déesse de la neige, il y en a plusieurs dans plusieurs civilisations. Mais dans le cas de la civilisation grecque, on a une déesse, on parle Ovide, dans les Métamorphoses, qui est Kyoné. En fait, cette déesse, elle a la particularité, c'est aussi de la déesse du froid. Alors sa particularité, c'est qu'elle s'est unie à la fois à deux dieux qui en fait ne semblent pas du tout prédestinés à s'unir à elle, puisqu'elle avait même, à la limite, elle pourrait avoir une certaine aversion. Et là, je rejoins un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le bruit. C'est Hermès. Donc Hermès, comme on le sait, c'était le dieu grec du verbe, donc de la parole. Il a tendance à être bavard. Alors la neige, elle n'est pas bavarde, elle déteste ça, elle déteste le bruit. Mais c'est lui qui va réussir à la séduire. Non pas par le verbe, parce que finalement, elle était totalement insensible à son bavardage éventuel, mais par le caducé qu'il avait dans la main, en fait, en la touchant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le froid, la neige, il faut avoir une expérience tactile, il ne suffit pas d'en parler. Alors après, elle s'est aussi unie à Apollon, qui est un dieu le dieu de la beauté, mais ça, on peut comprendre qu'il y a une relation plus immédiate entre beauté, lumière et neige, puisqu'il y a une lumière de la neige particulière.
Alors il y a la mythologie, mais il y a aussi toute une terminologie établie par la Commission internationale de la neige et de la glace, qui est une institution qui a été créée en 1951. Et alors là, on est sur des termes beaucoup plus techniques, peut-être un peu moins poétiques, parce qu'il y a sept catégories de cristaux à minima et une quantité de vocabulaire.
Alors, il y a toute une. Moi, je n'ai pas écrit un traité de nivologie, je ne me prétends pas du tout.
Nivologie étant la science de la neige.
La science de la neige. Mais effectivement, la neige a ceci de particulier qu'effectivement, elle a étudié par les scientifiques. Le premier à en avoir eu la compréhension de sa nature, c'était Kepler, qui, en fait, anecdote assez intéressante, le jour de la Saint-Sylvestre, devait voir un ami, devait lui offrir un cadeau. Et en fait, il ne savait pas quoi lui offrir, et il y a un flocon de neige qui tombe sur son veston, et là, il le regarde. Il dit, bien, je lui offre un flocon de neige. Et là, il examine et il voit que la nature du flocon est hexagonale. Ils ont 6 branches, les flocons. Et à partir de là, s'est développée toute une science de la nivologie, à partir de cette découverte totalement miraculeuse. Hein. Le jour à Saint-Sylvestre, vous vous rendez compte? Et effectivement, il y a plusieurs sortes de neige. Et ce qui est intéressant, c'est que la neige, le flocon lui-même, change de forme en fonction de la pesanteur. C'est-à-dire que tout en haut, il a une forme de plaquette. Ensuite, il s'ouvre un petit peu. Ça devient une aiguille. Après, il s'évase à nouveau. Et à la fin, quand il choie, il faut une forme indifférenciée. Donc la neige qui tombe, le même flocon prend... En fait, c'est cette forme de flocon, mais c'est le même en fait qui pensait cette forme-là. Donc c'est un peu aussi, dans la neige, il y a le phénomène de la métamorphose. Le flocon qui choie, il change de forme. Et une fois au bas, il n'en a plus.
Alors il y a toute la dimension scientifique dans votre livre, mais c'est surtout la poésie qui domine. J'aimerais que l'on entende un extrait de cet éloge de la neige.
J'aime dans la neige ses aspects les plus contradictoires, celui du poudroiement éphémère en terre de plaine, celui du glacier éternel en terre montagneuse ou polaire, celui des congères majestueuses qui défigurent les paysages efflanqués des hauts plateaux et celui des séracs mystérieux où se creusent des grottes impénétrables. Et j'aime, du moins en pensée, autant que je peux le craindre physiquement, l'avalanche qui dévale et emporte tout sur son passage. Le blizzard qui fouette le visage jusqu'au sang et dont le ululement triste vous sort des timbres que nul instrument forgé par l'homme ne sait imiter. Variable dans ses manifestations, changeante dans ses paysages, du plus uniforme au plus évanescent, du plus irénique au plus violent. La neige n'en est pas moins une dans son essence. Nappe égale ou poudre disparate, elle est toujours une célébration de la blancheur triomphante, de son immarcessible pureté. À son contact, on se sent presque intimidé car elle ne donne aucune prise tangible à la main humaine. Et pourtant, c'est là que les enfants viennent immédiatement se servir pour se confectionner leurs boules. Si peu offerte, au toucher et si propice au jeu, la neige. La neige est faite pour les mains des enfants qui ne craignent pas le froid et qui d'ailleurs ne craignent rien, contrairement aux adultes qui craignent le froid et qui craignent tout.
Si je vous en crois, Louis Seabra, vous n'avez pas fait de bonhomme de neige dans votre enfance, mais je pense que vous en avez la nostalgie, puisque vous liez ce miracle de la neige avec le mirage de l'enfance. Et c'est vrai que la neige a ce pouvoir d'exciter les enfants.
Oui, la neige est intimement liée à l'enfance, parce que l'enfance est un âge justement où il n'y a pas encore de relation fonctionnelle ou sociale aux choses. On est dans l'émerveillement pur, dans la simple contemplation. Et c'est un instant suspendu dont d'ailleurs nous n'avons, pour la petite enfance, aucun souvenir, mais dont nous avons tout de même la nostalgie. Ce qui est quand même un paradoxe, avoir la nostalgie de quelque chose dont on n'a pas le souvenir. Et bien, en fait, la neige évoque un peu ça, parce qu'elle est tellement... Alors, je parle de la neige, évidemment, en terre de plaine. Hein. La neige en montagne, c'est différent. C'est une neige éternelle qui reste, qui demeure. Mais la neige en terre de plaine dans des pays dont je viens, où elle n'arrive jamais, si elle arrivait, ce serait pour en fait porter le message d'une absence, d'un non-souvenir dont on aurait la nostalgie. Vous voyez, quelque chose de particulièrement paradoxal en fait.
Alors ce livre est un livre d'un amoureux, on l'aura compris et entendu, mais c'est aussi le livre d'un lettré. Et notamment, vous parlez beaucoup de la culture japonaise, oui, où la neige est très présente. Et vous dites qu'il y a quelque chose de mystique, justement, dans la littérature, ou en tout cas dans les estampes japonaises, et que cette neige, finalement, c'est quelque chose de la mort qui vient hanter les vivants.
Oui, tout à fait. Le lien que les Japonais ont à la neige est très intimement lié à la spiritualité et notamment à cette religion bouddhiste mêlée de shintoïsme, puisque le shintoïsme est aussi une religion mais païenne du Japon, où en fait les phénomènes ont une part d'éternité et une part d'impermanence. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois vides et pleins. La pensée du vide et du plein est intimement liée à la neige, puisqu'il y a une plénitude dans la neige. Regardez le mont Fuji, hein. quand il regarde mon Fuji, il regarde un dieu qui est en permanence là. Mais en même temps, dans les haïkus, quand vous voyez par exemple les haïkus de Pachot, il y a cette idée que la neige est quelque chose de totalement impermanent, qu'on ne sait pas si elle vient ou si elle ne va pas venir. Et donc, on le retrouve aussi dans l'art des estampes, où effectivement, la neige est souvent un fond d'éternité qui vient nous rappeler qu'en fait, nous ne sommes pas d'ici, mais que nous subsistons tout de même. Donc voilà, il y a quelque chose de particulier, à la fois dans les estampes japonaises, et à la fois dans les haïkus, et à la fois dans les romans de Kawabata, par exemple.
La neige, dites-vous, révèle la forme des choses, tout en la cachant en même temps. Donc on est à deux doigts, si j'ose dire, de voir l'invisible grâce à la neige. Et en japonais, ça se dit « yuri ».
C'est ça, oui.
Vous parlez japonais ?
Non. Non, mais j'ai beaucoup de connaissances sur la spiritualité japonaise, notamment le bouddhisme, mais j'adore la littérature japonaise, mais je n'ai pas le loisir encore de l'apprendre à proprement parler. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de relation à la neige qui est immédiatement perçue comme quelque chose de spirituel, et aussi, comme vous dites bien, la présence de la mort, puisqu'il y a cette figure de Yukiwana, n'est-ce pas, qui est la femme des neiges, dont je parle beaucoup dans le livre, qui en fait vient hanter les vivants pour leur dérober leur esprit au milieu de la neige. Et quand vous vous perdez dans la neige, elle est là comme une figure de mort. Mais en même temps, c'est une femme incarnée, puisque c'est parce qu'elle a été victime des hommes, on a essayé de la violer, hein, donc elle se venge en fait des hommes. Donc il y a un peu aussi... pour faire un petit peu boucle par rapport à ce que vous disiez sur la maternité, dans mon rapport à la neige, il y a une espèce d'éloge du féminin aussi. Enfin, c'est-à-dire, finalement, cette présence-là, spirituelle et pure, c'est peut-être totalement idéalisé, hein, qui peut être à la fois froide et douce, hein, comme peuvent être les femmes, mais qui là, dans le texte, dans le film là, de Tanaka dont je parle, dans le livre, il y a une vengeance, mais une vengeance étrange, parce que finalement, elle finit par s'éprendre de la personne dont elle veut se venger. Donc, voilà.
Autre grande question de votre livre, Luis Seabra, c'est la question, on a parlé du goût, c'est la question de la couleur de la neige. Oui. Sachant que la couleur n'est peut-être pas neutre quant à la fascination qu'elle exerce sur les hommes. Écoutez Michel Pastoureau, qui est un historien spécialiste des couleurs.
Le blanc présente la particularité que les bons aspects sont nettement majoritaires par rapport aux mauvais aspects. En Europe en tout cas, mais quelle que soit l'époque envisagée. Alors le blanc, positif, c'est à la fois la pureté, l'innocence, la virginité, c'est aussi la beauté, la justice, la gloire, la paix à des époques plus récentes. Bref, une symbolique extrêmement large, qu'on retrouve d'ailleurs dans les sens figurés du mot blanc, les sens dérivés, les expressions, les proverbes. Voilà à peu près comment se présente la symbolique en Europe, hein, puisque ce sont des problèmes étroitement culturels, et si on passe en Asie ou en Afrique, ça donne tout à fait autre chose.
Alors si on parle de formule, il y a bien évidemment la formule blanc comme neige. Mais pour vous, Luis Seabra, elle n'est pas complètement blanche à la neige.
Non.
Et je ne parle pas des neiges souillées dans les grandes villes où on patoche dedans et elle devient marronasse.
Alors d'abord, la neige, elle est par essence, physiquement, elle est translucide en fait. Hein. C'est un phénomène qui s'appelle la dispersion de Rayleigh, qui fait que les particules, lorsque en fait, la lumière touche un flocon, elle se disperse dans tous les sens, et du coup tout le prisme, elle est prismatique en fait, il y a toutes les couleurs dans la neige en fait. Comme d'ailleurs le blanc n'est pas une couleur, comme disait Léonard de Vinci, il les contient toutes en fait. Donc la neige est blanche, mais elle contient aussi toutes les couleurs, et c'est pourquoi parfois on peut la voir bleue dans certains endroits du globe, hein, lorsqu'elle peut être dans les grottes, dans les séracs, ou jaune, ce qui peut arriver au sommet des Pyrénées ou dans les plages, elle devient jaune, verte aussi quand il y a des algues. Donc la neige n'est pas tout à fait blanche. Disons que sa blancheur est le produit du fait qu'elle qu'elle a toutes les couleurs en elle, en fait.
De la couleur, du goût, de la mythologie autour de la neige, il faut rajouter une dernière association, Louis Seabra, que vous faites dans ce livre et qui n'est pas la moins surprenante. Vous dites que la langue française, qui n'est pas votre langue naturelle, est une langue neigeuse. Pour quelle raison? J'avais jamais pensé que le français pouvait être une langue neigeuse.
Eh bien, justement, en fait, moi, il se trouve que ma langue natale est le portugais, puisque j'ai appris la première langue que j'ai appris, c'est le portugais, en tout cas, de façon vocalisée et verbalisée. Voilà. Mais j'ai un rapport à la langue française lié à ce célèbre poème de Rimbaud, non, sur les voyelles, où le E est blanc. Hein. Et cette espèce de manière qu'a le... Par rapport, mais ça, en fait, il faut vraiment être un allophone pour le comprendre. Enfin, il faut avoir une autre langue, peut-être, surtout une langue latine. Ceux-là, extrêmement difficile à prononcer pour les Portugais, les Espagnols, les Italiens. Parce que c'est un E disparaissant qui fuit un peu, comme le E muet, le fameux E muet, qu'on prononce et qu'on ne prononce pas. Et la neige, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on voit pas, qui va bientôt disparaître. C'est une idée de E, ce E-là, pour moi. Bon, donc c'est pour ça que, pour moi, il évoque la neige et la pâleur, effectivement. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, effectivement.
Mais en tout cas, ça veut dire que la langue a une dimension physique.
Oui, oui. Et peut-être que mon amour de la neige est peut-être lié à l'amour de la langue française, parce que en fait j'aime profondément cette langue, et c'est devenu ma langue, et c'est ma langue d'écriture, bien que je sois d'origine portugaise, et puis j'ai quand même vécu quand même jusqu'à 18 ans au Portugal, donc c'est pas comme si finalement j'étais prédestinée à aimer cette langue. Mais en fait, peut-être qu'il y a quelque chose dans cette langue qui évoque une forme de pâleur ou de des mortalités, ou un peu comme dans les poésies de Mallarmé, par exemple, qui, je ne sais pas, hein, c'est une supposition que je fais, qui suggère peut-être que mon lien avec la neige peut être lié à un lien avec une langue autre, puisqu'en plus, comme j'ai découvert la neige à Paris, et qu'il y a une histoire d'amour qui est née de cette rencontre, en plus, de façon très, très surprenante, miraculeuse, Pessoa disait que, en fait, sa patrie était la langue portugaise. Moi, je ne me sens d'aucune patrie autre que la langue. Donc, ma patrie, quelque part, c'est la matrie et la langue française, en fait, que j'ai adoptée et que j'aime plus que tout.
Merci beaucoup, Louis Seabra. Éloge de la neige, donc vous l'avez compris, un livre plein d'informations, de sensations et de références, est édité chez Rivage, en français, dans le texte. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Merci à tous, à toutes et à demain.